Bon, alors, quatrième déposition, et puis après c'est fini quasiment. Le pouvoir et la bienfaisance, ça va demander, là aussi, c'est comme l'histoire de la pensée technique qui vous demandait, mais qu'est-ce que c'est qui fait qu'il dit que je pense avec une pensée qui n'est pas la mienne? Oui, c'est pas que c'est pas la vôtre, c'est un système de pensée, comme d'ailleurs le marxisme est un système de pensée, et puis il vous amène où il vous amène, mais la pensée technique, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux, parce que le marxisme permettait quand même qu'on le récuse. La pensée technique n'admet que des arguments techniques. Quand vous dites à la pensée technique, enfin, mais où est l'homme là-dedans, dans ce que vous racontez, dans votre jeu de l'ego, elle dit, mais bon, je sais pas, donnez-moi des paramètres, même pas du baratin poétique, arrêtez quoi, c'est des chansons tout ça. Ah bon, d'accord, c'est vrai, oui, c'est vrai. Bon, on va essayer de trouver un paramètre technique pour l'introduire. Et il vous dira, mais l'homme, c'est une ressource. D'ailleurs, c'est vrai, l'homme se gère comme une ressource. Vous avez remarqué ça aussi? Pas trop de calories, pas trop de ceci, pas trop de cela, etc. Une sorte de gestion de la machine homme, humaine, donc, et qui a une sorte d'idéal qu'elle définit à peu près bien, qui est un idéal à la fois de sans graisse, sans sucre, sans ceci, sans cela, pas trop de calcaire, pas de cholestérol, pas de rien. Si possible, la vertu. Et là, derrière ce profil, il y a une petite machine. L'homme se regarde lui-même comme un objet technique, et il se fréquente comme un objet technique, et il s'entretient comme un objet technique, techniquement il s'entretient. Ça, c'est quand même un des prodiges de la pensée technique, c'est d'arriver à ce que ceux qui pensent le monde comme technique se pensent eux-mêmes comme une ressource humaine, comme etc., etc. Et jamais comme quelque chose de magique, ou de religieux, ou de je ne sais quoi. Mais là aussi, puisque chaque fois j'indique où est le danger, attention au danger religieux par rapport à la civilisation technique, parce que là, ça va barder beaucoup plus que ça ne le fait, et de manière féroce et méchante. Parce que la pensée technique est effectivement une pensée qui est sans discussion possible. Elle est sans répartie. On ne peut pas. Ou alors il faut parler technique. Ça me fait penser à des écologistes du début, quand je les ai vus apparaître, et ils étaient tous très très savants. Ils étaient passés on a passé le temps d'un militantisme de gens qui étaient complètement humanistes, qui brassait tout un tas de livres, il lisait Deleuze, Guattari, Foucault, etc., puis des trucs sur la Terre aussi, enfin surtout, et d'un coup, on a vu apparaître parmi les militants nouveaux, les militants écologistes, des gens qui, eux, savaient tous les trucs chimiques, des composants chimiques de ceci, de l'humus, du machin, de l'épaule, enfin tout ça, ils avaient une science incroyable, technique donc, et ils étaient les seuls à pouvoir parler avec le gouvernement technique, parce qu'ils avaient le langage technique. Donc ce qui veut dire qu'en plus, le langage technique, pour qu'il se trouve des opposants, ne se trouve que des opposants techniques, qu'il a fabriqués lui-même, dans son propre sabir technique. Je voulais le dire parce que ça me paraît assez important, et il n'y a aucune forme d'accusation de ça, mais c'est que moi aussi, si des fois je me surprends des fois à aller m'instruire sur tout un tas de bazar technique pour savoir de quoi on parle, et aussi parce que je sens bien que sinon j'ai l'air d'un andouille. On va me dire, ah mais lui il rêve avec Hölderlin, Baudelaire, pauvre animal, hein. Philosophe, hein, c'est ta place. Mais il n'aime pas nous emmerder, enfin, c'est sérieux, là, les affaires publiques. C'est de la technique, c'est pas de la rigolade, c'est pas de la philosophie, ça. Et ouais. Donc, nous voilà au quatrième des possessions, pouvoir et bienfaisance. Là, ça va faire grincer un peu plus, parce que vous allez en avoir marre d'entendre dire des horreurs. Moi, ça va continuer un peu. Je vais essayer de dire ça aussi très, très simplement. Il y a ceux qui n'ont pas de boulot, dont les enfants n'ont pas de boulot, qui vivent dans les cités, dans les banlieues. Et puis là, il y a des événements, comme on dit. Alors, il y a le feu, ou il y a des émeutes, où on se tire dessus, où il y a des morts. Bon. Et là, on envoie généralement des missionnaires qui vont interpréter les signes, parce que tout ça n'est pas lisible. Ils disent, on ne comprend rien à ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas demandé quelque chose. Ils ont brûlé ceci, brûlé cela. Ils ont même attaqué les pompiers. Qu'est-ce que tout cela veut bien vouloir dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut traduire ce magma de gestes des banlieues? Qu'est-ce qu'ils ont à la fin? Il y en a beaucoup dans les cages d'immeubles qui essayent de comprendre le truc. Et ben, en gros, ils disent... Ça se passe pas comme ça, parce qu'ils sont un peu exclus du système où on ne maîtrise pas trop bien les logiques du système, et se trouve toujours un peu floué, quoi, et c'est toujours un peu les mêmes, et même de père en fils, ils sont floués. Et ça donne quand même une génération assez tourmentée, parfois méchante, il faut bien comprendre. Ta 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 ta. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on traduit. C'est intéressant, ça. Et c'est sauvage aussi. L'idée d'aller traduire ce qui se passe. Est-ce qu'on va traduire ce qui se passe à nuit? Eh non. Moi, j'ai jamais vu que... Hop, qu'on allait traduire ce qui se passe au centre de Lyon, à la rue Saint-Ferréol à Marseille. Enfin, non, on ne traduit pas, on n'envoie pas des sociologues pour comprendre ce que veulent vraiment les habitants de la rue Saint-Ferréol, ou ici, de rue de la République, on n'envoie pas des sociologues pour ça. Alors qu'est-ce qu'on envoie des sociologues partout pour essayer de comprendre ce que ces gens veulent? Parce qu'il faudrait qu'ils veuillent. C'est ça le problème. Et peut-être qu'ils ne veulent pas. Je ne dis pas que c'est une qualité, hein. Mais peut-être qu'ils ne veulent pas, au sens qu'on entend, non. Ils veulent, et il y a du pouvoir qui agit. Donc, si on arrive à leur faire vouloir, on peut récupérer le pouvoir sur eux, puisqu'à partir de là, le contrat sera à peu près à nouveau clair. Mais tant qu'ils ne veulent pas, qu'ils prennent, alors là, ça ne va pas du tout. Ils prennent et ils n'entrent pas dans l'engrenage du vouloir. Donc, ils ne sont pas gouvernables, pour l'instant. C'est qu'un léger aspect des choses. Parce que, si on regarde bien tout ça, la bienfaisance publique dont il est question dans les HLM, les cités, elle se traduit par les APL, bon, par tout ce qu'on sait, le logement, les enfants, le salaire unique, enfin bon, tout ça. Tout ça accumulé, donc ça donne ce que moi j'appelle la bienfaisance de l'État, ce qu'on appelait comme ça d'ailleurs avant, c'est le welfare, et qui est en fait tout simplement donc les allocations sociales groupées. Les allocations sociales groupées, ça nécessite que chacun a un dossier. Moi, je me souviens du temps où peut-être il y avait encore un vague restant de peuple, pourtant déjà un arinthe l'avait vu disparaître, mais il en restait un petit bout du peuple quand même. On disait, dis, ma fille qui a fait le cours à piger, là, avec un dactylo, tu n'aurais pas quelqu'un dans ta boîte qui tu pourrais voir si on n'a pas besoin d'une dactylo, par exemple. Voilà, passé comme ça, on dirait, c'était les 30 Glorieuses, machin chose. Je ne sais pas. Mais je sais que c'est le peuple qui s'occupait d'aller placer ces gens. Et puis, ça se passait comme ça. Et la fille en question, elle ne disait pas, non, moi, la dactylo, merde, avec les ongles, je ne peux pas. Boucher, mais vous rigolez, non, c'est dégueulasse et tout. Et pourquoi pas plombier pendant qu'on y est? Non, bon, ma foi, ça s'est passé, qu'il fallait travailler, on travaillait. Bon. Et après, ben, après, c'était vendredi soir dans la tête. Allez, on m'aille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire donc de bienfaisance? Elle tombe sur les gens et elle demande en recours le montage d'un dossier, mais elle sépare du peuple. Elle sépare du peuple, c'est-à-dire qu'elle demande que le dossier soit meilleur qu'un autre. Oh, ben, ils sont nombreux à avoir des bons dossiers, heureusement quand même, sinon ils crèveraient de faim tous. Non, ils y arrivent un peu comme il faut, mais ils y arrivent individuellement, avec l'aide de l'assistante sociale, mais ils y arrivent individuellement, ils sont individués. Ah. Donc il n'y a plus, comme disait Anna Arendt, des groupes sociaux qui pourraient dire non mais ça nous disons que pour cette catégorie là de personnel ou d'habitants aussi, c'est ça qu'il faut. Non, c'est chacun qui s'individue et qui s'individue comme il peut. Ce qui est vrai que c'est très difficile pour les familles d'immigrés par exemple de s'individuer parce que c'est pas dans les cultures souvent de ce genre là, c'est-à-dire dans la culture de l'individuation. C'est trop d'abord c'est extrêmement cruel, on voit ce qu'on paye, nous, d'avoir vécu ça, l'arrachement aux familles, aux clans, aux quartiers, à tout ça, et être maintenant quoi, en gros? Des gens sans attache, avec la télé en face, et rien de plus. Donc peut-être qu'ils ont raison de se méfier, du coup c'est, oh là là, l'individuation, il faut quand même un peu freiner, parce que sinon on perd tout, le bled, la famille et tout le bazar. Et là on aura quoi en face? On aura l'État et les pleurs pour demander de l'argent tous les mois. Ça, pour vous donner la figuration de ce que peut être, comment peut être vécue la bienfaisance, le fait de faire bien. Mais voilà qu'il y a un autre aspect des choses. Ah, il est beaucoup plus complexe. C'est que lorsque on arrive à faire vivre de pension une grande partie de la population, la CEDIC, RSA, tout ce que vous voudrez, allocation compliquée, conjuguée, additionnée, il se passe une chose terrible, c'est que vous avez des gens qui sont de plus en plus hors de la création des conditions collectives d'existence. C'est-à-dire, pour prendre un exemple encore assez ancien, moi je suis d'une famille prolo, donc évidemment les gens là-dedans, cette famille, tous les uns après les autres, gueulaient qu'ils étaient volés par leur patron, et que c'était dégoûtant, et que donc ils étaient très syndicalistes, ils ne rigolaient pas avec ça, ils s'instruisaient aussi beaucoup, beaucoup, pour comprendre ce qui était en train de leur arriver. Mais quand ils disaient « on vole ce qu'on fait », c'est pas la même chose que de dire « je vais toucher les acédiques, les trucs, et on me vole rien, et on me file du truc, et je donne rien ». L'exploitation, c'est peut-être très difficile à vivre, l'exploitation. Mais il y a peut-être plus difficile encore, c'est le fait de ne pas être jugé digne parce qu'on ne produit rien et qu'on est exclu de la production des conditions de vie collective. Si vous regardez les choses comme ça, vous dites, il ne faut pas dire dans les cités, moi, j'avais fait ça dans une cité à Aix, la cité du jazz de Bouffan, la question n'est pas que les immigrés dans cette cité bénéficient de ceci et de cela. La question, c'est que cette cité, je l'ai vue sortir de terre, et je l'ai vue sortir de terre par tous ces gens qui sont là ou par leurs parents, et ça veut dire qu'elle leur appartient. Ah, c'est une autre chose. Donc la question n'est même pas est-ce qu'ils vivent les enfants vivent dans la location. La question est que leurs parents ont participé à construire cette société dans laquelle on vit. Donc on ne peut pas dire. On ne peut pas les retirer de ça. Il faut leur dire, il faut les remercier, il faut faire un monument. Il faut dire, grâce à eux, vous avez aujourd'hui de grandes cités, parce qu'ils ont été 22 000 à travailler là, à faire des tranchées, à malaxer du béton, etc. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que l'exclusion du processus de production des conditions collectives de vie est quelque chose de meurtrier, qui rend fou. C'est un peu un processus d'infantilisation, si vous voulez. C'est de dire, toi, tu viens voter, tu te mêles de quoi? Et même chacun le pense. Pourquoi je me mêlerai de cette société? J'en fais pas partie. Et quand je la regarde, je vois bien qu'on peut toujours me dire, toi, tu fabriques quoi? Rien. Tu touches des sous. Le fait de pouvoir alimenter des gens qui ne participent pas, au moins d'une manière ou d'une autre, à la condition collective matérielle d'existence, est un véritable... C'est une humiliation. Et il faudra y penser. Je vais vous en donner maintenant un exemple. Je vais vous donner surtout un déploiement à partir de Marcel Mauss. Marcel Mauss, c'est sans doute un des plus grands ethnologues du XXe siècle. Et il a avancé une théorie que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu évoquer, qu'on appelle la théorie du don et du contre-don. Je vais essayer de vous la résumer rapidement et avec un exemple drôle. Je l'ai déjà employé pour les enfants, il la comprenait, donc il n'y a pas de raison que ce soir ça défaille. Vous prenez l'exemple du Père Noël. Hein, Père Noël. Père Noël, il apporte des cadeaux aux enfants. Mais il ne demande rien en échange. Et pourtant, partout, il n'y a que de l'échange. Tu me donnes ça, je te donne ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Tu travailles, tu as un salaire, etc. Mais à un moment, tout à coup, on dit, non, je te donne, je te demande rien. Ce qu'a découvert Marcel Mauss, c'est que la pratique du don chez les trop-briandés notamment, n'était pas une pratique de bienfaisance, mais tout au contraire, une pratique de cruauté. Et il a repéré ça, y compris dans les formes de société contemporaine. À savoir que le don, si moi je prends quelqu'un, si par exemple je suis vraiment aisé, j'ai de l'argent, vous voyez, je connais quelqu'un d'entre vous qui n'a vraiment pas d'argent. Ça m'emmerde qu'il n'ait pas d'argent et qu'on ne soit pas tous les deux à rigoler avec l'argent. Et aller consommer tant qu'on veut. Alors je lui donne l'argent. Je lui dis, mais ne le rends pas, tu ne peux pas le rendre. C'est ça la cruauté du don. C'est de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un sans rien lui dire, en sachant très bien que l'autre pense, ce qui me fait souffrir, c'est que je ne peux pas te le rendre. Et que de cette façon, je suis humilié. Parce que de cette façon, je suis obligé de vivre mon infériorité. Ça, c'est la pratique même du don et du contre-don. Le don implique un contre-don pour s'affranchir de cette humiliation, de cette menace de suggestion. Donc on doit, mais même tout le monde le fait, je veux dire, vous allez bouffer chez des gens, vous amenez une bouteille de vin, vous direz, ah, la dernière fois, ils emmenaient une bouteille de vin, on va bouffer chez eux, tiens, on va leur amener des fleurs. Et on ne s'en rend pas compte de cette pratique, mais on la pratique sans arrêt tous les jours, sauf à Noël avec les enfants. À Noël, on se permet la cruauté extrême. C'est-à-dire que le Père Noël file les jouets et ne demande rien. Mais les parents donnent des torgnoles, parfois. Ne serait-ce que pour équilibrer la situation. Parce que les enfants reçoivent des cadeaux. Pour une fois, on ne leur demande rien. Ils sentent bien que c'est trouble. D'habitude, on leur dit, toi, tu n'auras rien. Alors on leur dit, le Père Noël ne passera pas. Comme si on avait des pouvoirs sur le Père Noël. en disant ce rituel est totalement banni de la situation. Il n'y aura plus de Noël, les enfants au lit. Vous voyez que cette constellation nous amène à comprendre que lorsqu'on reçoit et qu'on reçoit et qu'on reçoit et qu'on ne participe pas en retour à quelque chose, on est dans une situation d'immaturité. Et l'immaturité du vote, c'est ça. C'est quand il y a des gens qui ne peuvent pas, en leur fort intérieur, dire « Mais ça, c'est moi qui l'ai fait, cette colonne. Ça, je l'ai fait. » Tous les gens, mais tous, vous tous, si vous avez participé à quelque chose, on en est fiers de ce qu'on fait. C'est une des dimensions humaines les plus simples qu'on connaisse depuis les origines, c'est-à-dire depuis ce qu'on sait des sociétés primitives qu'on a pu observer un peu partout. C'était déjà présent. La fierté de chacun dans une collectivité a une place. Même le fou a une place, il fait ou rire ou il est devin, mais il a une place. Chez les Indiens, c'est exactement pareil. Même les plus chaoteux, les plus malades ont une place. Et s'ils n'ont pas de place, on les rend malheureux, mais plus que malheureux, puisqu'on n'en fait pas des hommes. On leur refuse le statut collectif d'humanité. J'aurais voulu vous lire un peu de Pasolini, sauf si vous en êtes prêts, pas long, hein. Mais ça vous aurait permis de comprendre aussi cette histoire d'hédonisme. Voilà. Mais peut-être que vous l'avez lu. Sinon, je vous dirais que... Ben, pardon ? Vous voulez voter ?
Non, on veut...
Pardon. Ne votez pas devant moi. Bon, écoutez, si vous voulez, j'ai trois textes qui sont tout à fait édifiants sur, sur les risques de la démocratie chez Tocqueville, sur l'observation de la démocratie grecque chez Platon, c'est chaque fois un tiers de page. Et Pasolini, donc beaucoup plus récent, tous les trois disent la même chose. C'est un peu étrange, mais peut-être que si vous avez la patience de l'entendre, ce qui reste est vraiment très court après, et de façon sera beaucoup plus développé en février. C'est simplement le point d'orgue de ces quatre moments de dépossession du nous voulons. Alors je vous lis, si vous voulez bien, je vous lis même Platon. Hein ? Alors Platon... C'est écrit en 380 avant Jésus-Christ, donc c'est pratiquement donc à la fin de la période démocratique. Et après la période passée sous Périclès comme stratège. Voici ce que dit Platon. Vous allez voir, vous allez rire après ce que je vous ai dit sur l'hédonisme. Envie d'eux, patin couffin. N'est-il pas inévitable que dans un pareil état, l'esprit de la démocratie, l'esprit de liberté s'étende à tout, et qu'il pénètre dans l'intérieur des familles, et qu'à la fin, l'anarchie se développe même jusque chez les bêtes. Le père s'accoutume à traiter son fils en égal et à craindre ses enfants. Le fils s'égale à son père et n'a plus de respect ni de crainte pour ses parents, parce qu'il veut être libre. Le métèque devient l'égal du citoyen, le citoyen du métèque et l'étranger de même. Dans un pareil état, le maître craint et flatte ses élèves. Et les élèves se moquent de leur maître, comme aussi de leur gouverneur. En général, les jeunes vont de pair avec les vieux et luttent avec eux en parole et en action. Les vieux, de leur côté, pour complaire aux jeunes, se font badins et plaisants et les imitent pour n'avoir pas l'air chagrin et despotique. Or, on conçoit quelles graves conséquences ont tous ces abus accumulés. Ce qui rend les citoyens si ombrageux qu'à la moindre apparence de contrainte, ils se fâchent et se révoltent. Et ils en viennent à se moquer des lois écrites et non écrites, afin de n'avoir absolument plus aucun maître. Platon, donc, 380 avant Jésus-Christ. Pier Paolo Pasolini, 1976. Si l'on observe bien la réalité, et surtout si l'on sait lire dans les objets, le paysage, l'urbanisme et surtout les hommes, on voit que les résultats de cette insouciante société de consommation sont eux-mêmes les résultats d'une dictature, d'un fascisme pur et simple. Dans le film de Baldini, dont il parle, on voit que les jeunes étaient encadrés et en uniforme. C'est un film sur le fascisme italien. Mais il y a une différence. En ces temps-là, les jeunes, à peine, enlevaient-ils leur uniforme et reprenaient-ils la route vers leur pays et leur champ, qu'ils redevenaient les Italiens de 50 ou de 100 ans auparavant, comme avant le fascisme. Le fascisme avait en réalité fait d'eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais ils ne les avaient pas vraiment atteints dans le fond de l'âme, dans leur façon d'être. En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre, d'autres modèles culturels. Il ne s'agit plus, comme à l'époque mussolinienne, d'un enrégimentement superficiel scénographique, mais dans un enregistre, un enrégimentement réel, qui a volé et changé leur âme. Ce qui signifie en définitive que cette civilisation de consommation est une civilisation dictatoriale. En somme, si le mot de fascisme signifie violence du pouvoir, la société de consommation a bien réalisé le fascisme. Maintenant, si vous voulez, je vous dis Tocqueville, de la démocratie en Amérique, 1830. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde démocratique. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses citoyens, il est à côté d'eux, mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Et s'il reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela, s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assumer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes de l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise les héritages. Mais que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et de difficulté de vivre? Voilà, trois extraits, sur trois penseurs de la démocratie. Ça, pour parler donc de notre héritage. Notre héritage, j'ai tiré cette expression d'une phrase de René Char, c'est les Feuillets d'Hypnose en 46. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Ce qui veut dire globalement, pour ce qui nous concerne, vous et moi ce soir, et peut-être nous tous, enfin, le nous tous, qui on va avoir affaire avec le destin, que ce qu'on a dans les mains, on n'en connaît pas le mode d'emploi, et ni même les attributions, et encore moins les répartitions. Et qu'on se retrouve donc avec des moyens d'agir qui sont absolument considérables, des moyens technologiques, des moyens de vivre absolument considérables aussi, mais dont on n'a tout à coup pas le fameux pouvoir du vouloir. Et on se retrouve donc sans pouvoir, d'une certaine façon. Sans pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien sûr, il y a cette rééducation, reconformation du pouvoir dont j'ai parlé tout à l'heure, avec la société de consommation, donc un pouvoir qui facilite la production, qui tape un peu quand il faut, qui régule les flux, etc., et qui console les victimes, qui donne des allocations, qui donne des... Je cherche le mot depuis tout à l'heure, des compensations, qui répare les dégâts. Et puis derrière, un énorme pouvoir, lui, il s'est livré totalement à lui-même, impersonnel, immatériel, le pouvoir qui, effectivement, aujourd'hui, d'une manière chaotique et sans aucune pensée, d'aucune sorte, est en train de fabriquer la planète, comme on la voit, et complexe, comme disent les uns et les autres, c'est-à-dire comme un marigot dont la formule chimique n'a toujours pas été trouvée. Ce qui n'empêche pas de naviguer dessus, en tout cas, avoir les fortunes qui se font. Donc, notre héritage... Ça veut dire aussi, nous avons les moyens, c'est étrange, nous avons peut-être plus que les moyens, c'est que l'état actuel de la concentration des pouvoirs dans des mains qui ne sont soumises à aucun type de contrôle est tel qu'il faudrait, pour abattre ces pouvoirs-là, ou les changer, ou les renverser, il faudrait que les pouvoirs politiques nationaux soient des pouvoirs tellement absolus que même Hitler et Staline, c'est la rigolade à côté. Ce qui veut donc dire qu'on aurait tout à y perdre si on passait par les pouvoirs traditionnels du politique. La seule chose, peut-être, qui se présente à l'horizon, c'est le court-circuit entre le vouloir et le pouvoir. C'est-à-dire par le fait de commencer à tout échelon à réaliser les choses et en discuter éventuellement collectivement, mais ensuite voir comment ces réalisations dessine quelque chose de compatible et ne pas avoir un plan d'avance. Il est hors de question que la société obéisse à un plan technologique. On va quand même pas dire, on va vous faire comme l'autre là à la télé depuis dimanche, on a une idée de la société, alors on va réglementer, on va déréglementer, on va passer des lois, parce que la société va être comme ça. C'est de la folie furieuse. Comment on peut imaginer que la société serait comme ça? Elle sera ce qu'elle doit être, si des êtres libres la composent. Et à ce moment-là, qui en a quelque chose à faire de ce à quoi ressemble cette société, si elle est effectivement vivable par tous les gens qui la composent? Donc la question du plan social comme un fétiche, du plan sociétal, comme une sorte de fétiche qu'on brandit en disant, voyez, on veut une société comme ceci, comme cela. Non, on n'est pas à Noël. On ne veut rien. On va s'y mettre et on va voir qu'est-ce que ça donne, peut-être. Alors on va dire, oui, mais bon, gros problème, mon ami, c'est que tout ça, on a un peu essayé et ça marche parfois, oui, c'est vrai. Mais quand même, les gens, ils n'aiment pas. Et les gens, ils préfèrent qu'on agisse à leur place. Ben oui, c'est vrai que les gens, ils préfèrent se cacher derrière le pouvoir du maire, de l'État, de la région, etc. Parce que et ça les soulage, bien sûr. Ils ne prennent pas la responsabilité. C'est pas facile de prendre des responsabilités, ça, c'est une évidence. Mais on peut se dire aussi que la contrepartie, c'est que si aujourd'hui, ce n'est pas le collectif qui arrive à résoudre ce problème d'aggiornamento de la civilisation avec ses moyens d'existence, personne ne va y arriver. Ça fait 30 ans que la question, je ne dirais pas des réformes, mais la question du remodèlement des formes sociales autour de la volonté populaire, justement, et de la capacité populaire à intervenir dans les affaires publiques, on le dit de partout, mais chaque fois on s'est dit, mais ouf, ils ne seront pas capables. Et comment on va mettre ça en place? Mais ça, c'est relativement simple. C'est relativement simple. Ça ne consiste pas à mettre des comités partout qui bavardent toute la journée. Ça consiste simplement à déphaser un peu de temps en temps les choses et à se dire que là, on peut agir. Mais commençons par des exemples. On commence par tout d'un coup, du jour au lendemain, allez hop, les soviets partout, et en avant, zou. Vous imaginez un peu le désastre quand même. La seule chose qui peut être possible, c'est le goût de le faire, l'envie de le faire. Et ça, ça se fait quand ça réussit dans un petit endroit. Et ça, c'est sur tous les plans, sur le plan de l'agriculture aujourd'hui, parce qu'il faut non pas repenser techniquement la question agricole, et se demander s'il n'y a pas des gens à qui ça plairait de faire un peu d'agriculture, en plus d'être, je ne sais pas, cinéaste, graphiste, philosophe. Moi, oui, ça me plairait. Moi, ça me manque énormément. Et ça m'emmerde d'être philosophe 24 heures sur 24. J'aimerais aussi élever des poules. Parce que j'aurais les pieds aussi dans la terre. Et je le fais avec une pauvre terrasse qui est harcelée avec ma compagne parce qu'on essaye d'en faire un jardin. Évidemment, c'est une terrasse. On ne peut pas en tirer un jardin, mais ça ne fait rien. Parce que, bon, ben, c'est ce jardin qu'on peut avoir. Mais quand même, le lien à la terre aujourd'hui, il est fondamental. C'est par là qu'on peut se dire, il y a un aller-venu entre la tête, les abstractions qu'on manipule toute la journée, et d'autre part, la matière, qui, elle, ne se laisse pas manipuler comme une abstraction. C'est-à-dire d'être confronté à d'autres lois que les simples lois du moi-je et de l'ego, toujours complètement dominateur de tout. Alors, bon, cette idée de la... Elle vient un petit peu, comment dire, vient en surplomb une phrase de Rousseau, je vais vous la dire en latin parce que ça va ressembler à une église d'un coup. Et puis après, je vous dirai la traduction, c'est pour rigoler. Et voilà, est-ce que je l'ai encore? Je ne sais même pas si je l'ai toujours, la phrase de Rousseau. Non, je l'ai enlevé. Pas grave. Enfin, la phrase de Rousseau, ça dit, je préfère encore les difficultés de la liberté que le confort de l'esclavage. C'est une vieille devise que Rousseau avait installée dans le contrat social et qu'il, bon, qu'il avait fait dire, mais en fait, il a totalement inventé. Donc, voilà, nous en arrivons donc à l'exacte fin. Nous sommes aujourd'hui de faire ce que... C'est ça qui a changé. Le monde étant effectivement une matrice technique, étant devenu l'œuvre humaine par excellence, c'est-à-dire qui n'est plus rien, qui échappe, je dirais, ne serait-ce que l'environnement, qui aujourd'hui fait que si un lézard vit, c'est parce que y a, là-bas, à Trinquetail, il y a un lézard, un triton, dont s'occupe une équipe scientifique considérable pour qu'il continue à vivre, et il n'a pas de femelle. Le problème, c'est qu'il va avoir trouvé de la descendance. Mais bon, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le lézard n'est donc plus seul, il a l'être humain. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que le monde a perdu son autonomie, et que la main de l'homme est partout. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bienveillante, mais c'est pareil avec le lézard qu'avec les gens dont je parlais tout à l'heure. Ça continue. On ne peut pas regarder un lézard sans dire c'est une grande victoire de l'humanité que d'avoir pu maintenir un triton écrété, c'est ça, un triton crété à Trinquetail. C'est bien qu'il y ait un triton crété, mais le fait que ce soit la main de l'homme qui permette qu'il existe, fait qu'il n'existe plus. Ça, symboliquement, le triton n'existe plus. Et le jour où toutes les espèces animales ne vivront plus que de la bienfaisance humaine, ce jour-là, il n'y aura plus d'animalité. Et tous les gens qui veulent protéger les animaux ne sont pas tous dans ce sac. Mais il y en a un paquet en ce moment dont la pensée se dessine vers l'idée que l'humanité, l'animalité ne font qu'un et que finalement, il faut protéger les espèces humaines. Oui, les espèces animales, pardon. Mais l'humaine aussi. Oh, j'ai une phrase magnifique de Marx, il faut que je m'en souvienne. Marx, donc, dans l'introduction à la philosophie de Hegel, dit cette phrase géniale à propos des réglementations parisiennes et des droits sur les gens. Et il dit, et voilà que maintenant, on va faire des droits pour les chiens dans la capitale de France, Paris. Pauvres chiens, on va vous traiter comme des hommes à présent. Voilà, j'arrête là-dessus. Merci.